Bonsoir, c'est Jean-Marie Marcos sur Radio Axe. Pour cette 41e émission de Bonheur Chronique, ma chronique hebdomadaire sur le bonheur, je vais aborder le thème suivant. Pourquoi construire une relation apaisée au temps nous rend heureux? Quel est votre rapport au temps? Êtes-vous plutôt Aznavour? Le temps et rien d'autre. Ou Léo Ferré? Avec le temps va, tout s'en va. Ce qui est certain, c'est que notre rapport au temps est complexe. De nombreuses lois le régissent. En voici les principales. Le premier principe est appelé loi des 20-80 ou loi de Pareto, mise en lumière par Vilfredo Pareto, économiste et sociologue italien. Ce principe indique que 80% des effets est le produit de 20% des causes. A contrario, 20% de notre temps génère 80% de nos résultats. Tout au long de notre vie, l'essentiel prend peu de temps, alors que l'accessoire en consomme beaucoup. Deuxième loi, la loi des séquences homogènes de travail de Sune Carlson, un professeur suédois. Elle précise que 3 minutes sont nécessaires pour se concentrer en débutant un travail et que toute tâche interrompue sera par conséquent moins efficace et prendra plus de temps que si elle était effectuée de manière continue. La loi de la dilatation du temps de Cyril Northcote Parkinson, historien et essayiste britannique, nous apprend que tout travail tend à se dilater pour remplir le temps disponible. Il convient donc de nous attribuer un budget temps réaliste en rapport avec la durée nécessaire à une activité, en nous fixant des échéances à ne pas dépasser, sous peine de débuter cette activité au dernier moment et de la bâcler, alors que nous avions suffisamment de temps pour la réaliser efficacement. La loi de la contre-productivité du temps investi au-delà d'un certain seuil, selon Ivan Illich, un penseur autrichien de l'écologie politique, elle précise qu'après un certain laps de temps passé à réaliser la même action, notre productivité décroît jusqu'à devenir négative. Il est donc judicieux de s'arrêter avant ce seuil pour faire autre chose. Cette loi est à la base de toutes les pédagogies actives prenant en compte le temps d'attention des apprenants. La loi de la dimension subjective du temps de Paul Frès, un psychologue français. Elle précise que plus une activité est morcelée, plus elle paraît durer longtemps. Plus une activité est intéressante, plus elle paraît brève. Le temps d'une attente est toujours trop long. Vous attendez votre chérie un quart d'heure, cela vous paraît interminable. Vous passez un quart d'heure ensemble, c'est trop court. Et pourtant, ce sont toujours 15 minutes. La loi des biorhythmes, du docteur Wilhelm Fleiss, spécialiste allemand du nez de la gorge, du docteur Hermann Svoboda, psychologue autrichien, et d'Alfred Teschler, professeur autrichien de génie mécanique, nous rappelle que chaque individu est animé de multiples rythmes biologiques. Et le respect de nos horloges internes permet de tirer parti de nos périodes de grande forme et également de respecter nos périodes de récupération. La loi de l'alternance, ou loi de l'Ecclésiaste, nous dit qu'il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. Cette loi, tirée d'un livre de la Bible hébraïque, présent dans tous les canons, nous amène à définir l'activité spécifique qui convient à chaque moment. Il vaut mieux faire une seule chose à la fois, mais en s'y consacrant totalement. La loi de Murphy est très connue. Elle est appelée aussi loi de l'emmerdement maximal. Elle a été formulée par Edward Murphy, un ingénieur américain en aérospatial. Il s'agit en fait d'une loi empirique qui indique que si quelque chose peut mal tourner, alors cette chose finira infailliblement par mal tourner. Ramené au sujet du temps, chaque chose prend toujours plus de temps qu'on ne le prévoyait au départ. Les pessimistes y trouveront une justification constante. Par exemple, si l'on est dans une file d'attente quelconque, entourée de deux autres, il y a deux probabilités sur trois pour que l'une des deux files adjacentes soit plus rapide que la sienne. Et si nous changeons de file pour une file plus rapide, elle ralentit aussitôt. La loi du moindre effort, oh je l'adore celle-ci, d'Henri Laborie, médecin français, chirurgien, neurobiologiste et spécialiste du comportement animal et humain. Cette loi du moindre effort nous indique que chaque individu a une tendance naturelle à faire d'abord des choses qui lui font plaisir. L'expérience, en revanche, montre qu'une tâche pénible ou ennuyeuse sera réalisée plus rapidement s'il existe la promesse d'une action plaisante juste ensuite. Ainsi, pour être plus efficace, il vaut mieux commencer par les tâches pénibles et s'offrir un petit plaisir après une corvée. Enfin, la loi des préférences de Carl Jung, dont sont issus les travaux de Myers et Briggs et l'outil de découverte de personnalité MBTI, cette loi nous montre que dès notre naissance, nous avons une préférence pour un style d'organisation des temps de notre vie. Certains ont une préférence pour tout boucler, planifier, structurer, prendre des décisions dès que c'est possible. Les délais et les échéances les stressent. Et d'autres, pour se laisser le temps de découvrir de nouvelles opportunités, surtout ne pas prendre de décisions trop tôt, l'urgence les dope. Et n'oublions jamais, comme Paul Morand nous le rappelle, que le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. Lors de l'émission de France Inter, Grand bien vous fasse, le psychiatre Christophe André partageait sa surprise de constater qu'en Occident, les personnes de 50 à 70 ans représentaient la catégorie de population qui se déclare comme la plus heureuse. Plus vieux, certes, mais aussi plus heureux, plus serein, plus épanoui. Ainsi, nous serions plus heureux à 60 ans qu'à 20 ou 40. Malgré les rides, les douleurs, les cheveux blancs ou rares, et le départ des amis de la même classe d'âge, qu'est-ce qui expliquerait ce paradoxe? D'après Christophe André, prendre conscience que notre corps n'est pas éternel nous porte tout naturellement à savourer tous les plaisirs, tout en évitant toutes les souffrances inutiles. Ainsi, nous nous mettons en condition pour jouir de chaque moment de bonheur, même minuscule, même imparfait ou même incomplet. Nous nous réjouissons d'être en vie chaque matin et de l'être encore chaque soir. Avec le temps, plus nous vieillissons, plus il est important d'aimer la vie, de rire, de chanter, d'aller vers les jeunes pour les écouter sans s'incruster, de rester joyeux, de rester léger. En revanche, évitons de vouloir rester jeune à tout prix et gardons-nous de nous plaindre, de nous comparer, de glorifier le passé et de donner des conseils non sollicités. Évitons aussi de dépenser notre bien le plus précieux, le temps, avec nos objets chronophages, nos mangeurs de temps de cerveau disponibles, ces outils numériques censés nous faire gagner du temps, mais qui bien souvent nous le volent avec notre plus complet consentement, nous forçant à réagir dans l'instant, à exiger l'immédiateté sans prendre le recul nécessaire, nous portant à devenir les esclaves de nos esclaves. Or, le temps est un formidable allié des relations humaines. Lors des situations de tension et de conflit, notamment, chaque fois que nous nous offrons le temps de la réflexion, le temps de prendre du recul ou de la hauteur, nous agissons avec plus de bienveillance. Ce que je résume pour les enfants qui participent à mes ateliers du bonheur sur la communication non violente par l'équation suivante. Chacal plus tortue égale girafe. Le chacal répond trop vite, la tortue l'aide à prendre le temps et devenir la girafe bienveillante et dans l'écoute active. Je vous renvoie aux chroniques de la CNV pour ceux qui découvrent ces animaux symboles. Pour comprendre la valeur du temps, Imaginez qu'une banque dépose chaque matin sur votre compte la somme de 86 400 euros. Cette banque aurait pourtant une particularité. Elle ne transférerait pas votre solde au lendemain. Toutes les nuits, l'argent que vous n'auriez pas pu dépenser serait supprimé de votre compte. Que feriez-vous alors ? Je suppose que vous retireriez tous les jours la somme que vous n'auriez pas dépensée, n'est-ce pas ? Eh bien, chacun de nous a une banque semblable. Elle s'appelle le temps. Chaque matin, cette banque dépose sur votre compte personnel 86 400 secondes. Chaque soir, elle les supprime de votre compte et considère comme perdue toute la quantité de temps que vous n'avez pas su investir en quelque chose d'utile. Cette banque ne reporte donc pas votre solde au lendemain et n'accepte pas non plus d'ordre de transfert. Chaque jour s'ouvre pour vous un nouveau compte et la nuit, le solde de ce jour disparaît. Si vous n'utilisez pas l'argent pendant la journée, vous le perdrez pour toujours. Vous ne pourrez pas faire marche arrière et vous ne pourrez même pas non plus utiliser aujourd'hui le solde de demain. Il faut vivre le présent avec le solde d'aujourd'hui. Donc, voilà une piste de bonheur. Rendez-vous plus apte à utiliser votre temps de manière constructive. L'horloge suit sa marche. Profitez au maximum de chaque jour, non de manière égoïste, mais de manière responsable et généreuse. Pour comprendre la valeur d'une année, demandez à un étudiant qui a raté l'année. Pour comprendre la valeur d'un mois, demandez à une mère qui a accouché d'un bébé prématuré. Pour comprendre la valeur d'une semaine, demandez à un éditeur hebdomadaire. Pour comprendre la valeur d'une heure, demandez aux amoureux qui attendent le moment du rendez-vous. Pour comprendre la valeur d'une minute, demandez à un passager qui a raté son train. Pour comprendre la valeur d'une seconde, demandez à quelqu'un qui a échappé de justesse à un accident. Pour comprendre la valeur d'un millième de seconde, demandez à un athlète qui a gagné de peu une médaille olympique. Considérez chaque moment de votre vie comme un trésor. Le temps est ce que vous possédez de plus précieux et ce trésor aura beaucoup plus de valeur si vous le partagez avec quelqu'un de spécial. Suffisamment spécial pour lui avoir consacré votre temps. Et pour soi-même, il est important de s'offrir le temps, de se donner du temps, mais pas de prendre le temps. Car cela peut engendrer un sentiment de culpabilité. Si je prends le temps, je le prends à quelqu'un ou à mes devoirs. Tandis que si je m'offre le temps, c'est le mien. J'en fais ce que je veux. Le conte de la semaine s'intitule « La fougère et le bon bout ». Un jour, un homme a éprouvé une immense lassitude. Ayant perdu le sens de son existence, il s'est avoué vaincu. Il a renoncé à son travail, à ses relations, à sa vie. Il est alors allé dans la forêt pour parler avec un ancien que l'on disait très sage. « Pourriez-vous me donner une bonne raison de ne pas m'avouer vaincu ?» lui a-t-il demandé. « Regarde autour de toi, » lui a répondu le sage. « Tu vois la fougère et le bon bout ?»« Oui. » « Quand j'ai semé les graines de la fougère et du bon bout, j'ai fait très attention. » La fougère a grandi très vite. Son vert brillant a recouvert le sol. Mais la graine de bambou n'a rien donné. Je n'ai pourtant pas renoncé au bambou. La deuxième année, la fougère est devenue encore plus brillante et abondante. Mais de nouveau, la graine de bambou n'a rien donné. Mais je n'ai pas renoncé au bambou. La troisième année, la graine de bambou n'a toujours rien donné. Mais je n'ai pas renoncé au bambou. La quatrième année, de nouveau, la graine de bambou n'a rien donné, mais je n'ai pas renoncé au bambou. La cinquième année, une petite pousse de bambou est sortie du sol. En comparaison avec la fougère, elle était bien sûr très petite, insignifiante. La sixième année, le bambou a grandi de plus de 20 mètres de haut. Il avait passé 5 ans à faire des racines pour le soutenir. Ses racines l'ont rendu fort et lui ont donné ce dont il avait besoin pour survivre. Sais-tu que tout ce temps où tu t'es battu, en réalité, tu as formé des racines ? Le bambou a un rôle différent de celui de la fougère et pourtant, tous les deux sont nécessaires et embellissent la forêt. Ne regrette pas un jour de ta vie. Les bons jours t'apportent du bonheur. Les mauvais jours t'apportent de l'expérience. Tous deux sont essentiels à la vie. Le bonheur te rend doux, les tentatives te rendent fort. Les peines te rendent humain. Les chutes te rendent humble. La réussite te rend brillant. Si tu ne réussis pas ce que tu veux faire, ne perds pas espoir, car peut-être que tu es seulement en train de fabriquer des racines. Pour l'action de la semaine, notez quels ont été les bambous de votre vie. Qu'avez-vous réussi à obtenir après des semaines, des mois, voire des années de patience? Et quelles sont vos demandes d'immédiateté que vous pourriez accepter de ne plus exiger? Cette semaine, efforcez-vous de développer une relation au temps plus amicale. Pour la musique du bonheur de la semaine, laissez-vous aller et oubliez le temps. Avec Mark Ronson et Bruno Mars et leur titre joyeux Uptown Funk. C'était Jean-Marie Marcos pour Bonheur Chronique sur Radio Axe. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur le bonheur. Et d'ici là, soyez heureux. Hallelujah. Ooh.
girl, set you hallelujah. Ooh. Girl, set you hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Ooh.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Saturday night and we in the spot.
Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh!
Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. I said uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up, uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak, dead and own it.